Midi et demi, 13h, le journal de la mi-journée sur Europe 1, c'est avec vous Fabienne Lemoyle. Bonjour Fabienne.
Bonjour Marlène, bonjour à tous.
Soulagé bien sûr, soulagé du résultat, pas totalement satisfait du contenu.
C'était quasiment quitte ou double pour le 15 de France. Les Bleus se sont donc rassurés avec une victoire 23-21 pour leur premier match en Coupe du Monde de rugby ce matin au Japon. 90 interpellations à Paris, 104 personnes verbalisées dans des périmètres interdits à toute manifestation. Dernier bilan des forces de l'ordre qui quadrillent Paris pour l'acte 45 des Gilets jaunes qui sont peu nombreux pour l'instant.
Si vous avez le malheur d'avoir quelque chose de jaune dans vos papiers, on va vous arrêter puis vous mettre une amende de 135 € parce que vous avez du jaune sur vous.
Autre mobilisation attendue cet après-midi, la marche pour le climat et le rassemblement contre la réforme des retraites à l'appel de Force ouvrière. Nous verrons que toutes ces manifestations n'ont pas totalement dissuadé les visiteurs à découvrir l'Élysée pour les journées du patrimoine. Toujours dans le journal de la mi-journée, la journée mondiale contre Alzheimer avec des ballons pour faire travailler la mémoire. La météo avec deux départements en vigilance orange, pluie et inondation, l'Hérault et les Pyrénées-Orientales.
Europe 1.
Une défaite était quasiment synonyme d'un billet retour pour la France. Eh bien, a priori, ce ne sera pas le cas. En tout cas, pas tout de suite, puisque de toute façon, il y a les autres matchs de poule. Le 15 de France est imposé 23-21 face aux Argentins ce matin au Japon. Mais, Simon Rubin, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 pour cette Coupe du Monde de rugby. Les Bleus nous ont fait peur jusqu'au bout.
Ah oui, énorme frayeur, hein. Les Bleus qui menaient 20-3 à la pause et qui ont encaissé 18 points en 23 minutes pendant la seconde période. Des Bleus rattrapés, dépassés, totalement perdus sur le terrain et qui n'ont dû leur salut qu'un drop de Camille Lopez en toute fin de match, entré peu de temps avant d'ailleurs. Alors on souffle côté français, mais pas de quoi avoir le sourire, tempère le manager Jacques Brunel.
Soulagé bien sûr, soulagé du résultat, pas totalement satisfait du contenu parce que je pense que... On a montré quand même quelques hésitations, quelques lacunes. Donc, il va falloir qu'on soit meilleurs pour aller plus loin dans la compétition.
Des Bleus très mesurés, vous l'entendez. Trop marqués par les déceptions passées pour célébrer cette victoire. Même si au coup de sifflet final, on a vu quelques joueurs français exulter. Très vite, tout le monde est quand même redescendu sur terre. Le capitaine Guirado l'a rappelé. Il y a beaucoup à redire, notamment suite à la catastrophique seconde période. Les Bleus soufflent, gardent donc espoir dans ce mondial, mais savent tout le travail qu'il reste à faire pour espérer aller loin dans la compétition.
Simon Rubin à Tokyo pour Europe 1. Le prochain match pour le 15 de France, c'est donc le 2 octobre face aux États-Unis et cette victoire du 15 de France. On y reviendra dans le journal des sports avec Axel May dans quelques minutes.
Europe 1 midi 33, la suite du journal sur Europe 1, Fabienne Lemoyle.
Les Gilets jaunes annonçaient une mobilisation historique à Paris pour leur acte 45. Du coup, Paris a pris des allures d'une capitale quadrillée par 7500 policiers et gendarmes, avec plus de 1300 contrôles préventifs, 90 personnes interpellées, 104 personnes verbalisées dans des périmètres interdits. Alors, est-ce que c'est ce dispositif qui explique que pour l'instant, la mobilisation reste assez faible malgré des tensions dès ce matin aux abords de la gare Saint-Lazare. On retrouve Victor Delande dans les rues de Paris. Vous sillonnez la capitale depuis ce matin. Vous êtes actuellement aux abords des Champs-Élysées où toute manifestation a été interdite. Quelle est la situation ? Est-ce que c'est tendu, Victor ?
Oui, je suis au milieu de l'avenue des Champs-Élysées. Fabienne a un très important dispositif de sécurité, de très nombreux cars de CRS, mais aussi des camions avec des lances à eau barrent la progression des manifestants. Les forces de l'ordre ont tiré des gaz lacrymogènes à plusieurs reprises pour disperser les manifestants. Et ce mécanisme s'est répété de nombreuses fois depuis ce matin. Ça a commencé près de la place de la Madeleine, puis à la gare Saint-Lazare, sur les grands boulevards. À chaque fois que les manifestants essaient de se regrouper, une cinquantaine de motos quadrillent la zone rapidement et disperse la foule. J'ai aussi vu de très nombreux contrôles de police, fouilles des sacs, présentation des papiers d'identité. Et pour le moment, donc, ce dispositif de sécurité est efficace puisque les manifestants peinent à se regrouper en un seul noyau.
Alors ces manifestants, vous les avez rencontrés, Victor Delande. Quelles sont leurs revendications ?
Alors ce sont toujours les mêmes revendications, Fabienne, tous les manifestants que j'ai rencontrés qui ne portent pas de gilets jaunes. C'est à noter, c'était l'un des mots d'ordre qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux ces derniers jours et qui a été respecté. Eh bien, tous ces manifestants se battent encore pour leur pouvoir d'achat. José est venu de Normandie, il s'inquiète également pour sa retraite avec la réforme qui est en préparation.
Quelle accumulation de la colère. Et plus ça va, plus la colère monte. Parce qu'on voit bien aujourd'hui avec les retraites, ce qui se passe avec les retraites, ce qui nous prépare. Donc moi, par rapport à mon âge, je vais tomber en plein dedans, il y a de la colère, je suis obligé, quoi.
Patrick, lui, est à la retraite. Il regrette d'être contrôlé en permanence par les policiers et de ne pas pouvoir manifester, dit-il, librement.
En 300 mètres, on a été contrôlé 3 fois. On a plus de liberté, quoi. Si vous avez le malheur d'avoir quelque chose de jaune dans vos papiers, on va vous arrêter puis vous mettre une amende de 135 € parce que vous avez du jaune sur vous.
Depuis quelques minutes, le dispositif de sécurité s'est quand même un peu allégé sur les Champs-Élysées pour continuer à suivre les mouvements des manifestants un peu partout aux alentours. Certains d'entre eux m'ont déjà dit qu'ils allaient rejoindre le cortège de la marche pour le climat qui partira à 13h du Jardin du Luxembourg.
Merci beaucoup Victor Delande. Journée effectivement classée à haut risque par les autorités, vous venez de le dire, parce qu'il y a assez de mobilisation des Gilets jaunes qui s'ajoute la marche pour le climat cet après-midi au départ du Jardin du Luxembourg et aussi donc un rassemblement contre la réforme des retraites à l'appel de Force ouvrière avec un cortège qui doit rejoindre la place de l'Enfer Rochereau. Tout cela en plein week-end de journée du patrimoine. D'ailleurs, certains monuments ont tout simplement renoncé à ouvrir leurs portes comme l'Assemblée nationale. L'Élysée, en revanche, accueille bien des visiteurs mais uniquement sur inscription. Johanna Chabas est allée à la rencontre de ces visiteurs.
C'est sécurisant, à la fois on a un peu peur aussi en les voyant, mais... C'est valorisant et c'est bien.
Pour arriver à l'Elysée, Adrien est passé devant une dizaine de policiers au barrage. Deux camions bloquent la route, les barrières longent les rues à côté du monument. Le périmètre est totalement bouclé, de quoi rassurer Charlotte.
Je me sens plutôt en sécurité, ça c'est sûr. Je sais que le périmètre est totalement sécurisé. Ça permet, je pense, de réguler aussi le nombre de personnes. Et oui, en effet, filtrer. Mais je pense pas qu'il y ait déjà eu des problèmes sur les journées du patrimoine à l'Elysée.
Pour rentrer, inscription obligatoire et certains ne le savaient pas, comme Ting, venu exprès sur Paris aujourd'hui.
Du coup, aujourd'hui, on est venu pour rien. On doit partir pour voir d'autres patrimoines. Je pense que je vais aller voir UNESCO, si c'est possible, ou Panthéon, par exemple. J'espère qu'ils ne vont pas me demander encore une réservation. C'est surtout ça.
Pour eux, ce sera bon, mais pour d'autres, non. Aujourd'hui, 18 sites comme l'Arc de Triomphe ont carrément décidé de ne pas ouvrir aujourd'hui pour raisons de sécurité.
Et pour retrouver la liste des monuments fermés au public, justement, vous la retrouvez sur le site des Journées européennes du patrimoine. Enfin, notez si vous circulez dans Paris en métro que la plupart des stations aux abords des Champs-Élysées sont fermées. Autre perturbation du trafic, mais qui n'a rien à voir avec les manifestations, le RER B qui ne fonctionne pas sur le tronçon entre la gare du Nord et l'aéroport de Roissy tout le week-end à cause de travaux pendant ce week-end. À suivre, c'est la Journée mondiale contre la maladie d'Alzheimer, une maladie pour laquelle 225 000 nouvelles personnes sont diagnostiqués chaque année en France. Et vous allez l'entendre dans un instant, un éducateur à Toulouse déploie une méthode très originale avec des ballons pour faire travailler la mémoire.
Il est 12h39, le journal de la mi-journée sur Europe 1 se poursuit avec vous Fabienne Lemoelle.
Et ce sont près de 225 000 personnes dont on découvre chaque année en France qu'elles sont atteintes de la maladie d'Alzheimer. Et en cette journée mondiale consacrée à la maladie, je vous propose de découvrir une expérience originale dont le but est de faire travailler la mémoire pour retarder les effets de la maladie. Notre correspondant Benjamin Peter s'est rendu dans un établissement de Toulouse où un éducateur utilise des ballons.
Aviez-vous un animal ? J'avais un chat.
Comment il s'appelait ce chat ?
Kiki.
Marie renvoie la balle à la dizaine de résidents réunis dans la salle commune de l'EHPAD des 13 Vents. C'est Geneviève qui récupère le ballon sur lequel est inscrit une trentaine de questions évoquant le passé.
Quel était votre métier ?
J'étais couturière.
Qu'est-ce que vous faisiez comme couture ?
À la campagne, c'était surtout ce qu'on appelait des blouses.
Régulièrement, Aline, l'animatrice, relance les résidents pour qu'ils fouillent un peu plus loin dans leurs souvenirs.
Ça pose des questions peut-être qui ne viennent pas naturellement pour eux. La mémoire qui reste le plus, c'est la mémoire lointaine. Donc, c'est grâce à ça qu'on peut la faire travailler au mieux.
C'est François Garry, qui est éducateur physique adapté, qui a eu l'idée de créer ce ballon qui dit ball.
Les personnes qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer sont souvent passives. La passivité a tendance à accélérer l'avancée de la maladie. Les jeux de ballon ont l'avantage de stimuler l'attention et la mémoire. J'ai voulu profiter de cet état de stimulation pour stimuler encore plus les personnes.
La séance va durer une trentaine de minutes avec d'autres ballons qui invitent à compléter les proverbes ou à trouver un mot commençant par une lettre, du sport pour le corps et les méninges. Abel Bereau, Benjamin Peter, Europe 1.
L'actualité judiciaire, 3 mois de prison avec sursis, c'est donc ce qui a été requis contre Jean-Luc Mélenchon dans le procès de sa perquisition houleuse, jugement le 9 décembre prochain. On y reviendra longuement dès le début de tout terrain. Et puis dans l'affaire Karachi, le parquet de Paris a requis le renvoi devant la Cour de justice de la République de l'ancien Premier ministre Édouard Balladur et de l'ancien ministre de la Défense François Léotard. C'est le World Clean Up Day, en bon français, la journée mondiale de ramassage des déchets. Et pourquoi ne pas allier sport et ramassage des déchets en même temps? Eh bien, Pierre Herbulot a participé à ce qu'on appelle un plogging à Issy-les-Moulineaux, courir ou marcher et s'arrêter pour ramasser les déchets.
Un esprit sain dans un corps sain, et pourquoi pas sur une planète saine.
Alors, on a des emballages, on a des paquets de cigarettes.
Pour la troisième partie, il y a encore du travail.
Oh, bah un nid de plastique dégoûtant.
Nadia, ça fait 10 secondes que vous ramassez des mégots par terre.
Oui, effectivement.
Combien vous en avez dans la main, là?
Alors, on va les compter en les mettant dans la bouteille. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
13 mégots en 10 secondes.
Ça fait un peu beaucoup quand même, non?
Des courses et des marches comme celle-là pour ramasser des déchets, Luciana Morla en organise une chaque mois.
Non seulement on se fait du bien au corps, mais en plus on sait qu'on fait du bien à la nature. Parce que ici à Paris, donc on est vraiment en bord de Seine. Et donc on sait que tous les déchets qu'on ne va pas ramasser, il y a quand même de fortes chances qu'ils tombent dans la Seine. Et malheureusement, il n'y a aucun traitement pour ces déchets, ils vont partir en mer.
Les sacs poubelles se remplissent et Laurent prend conscience de l'ampleur du problème.
Il faut que les industriels rentrent dans ce cercle vertueux de produire moins de déchets. Il faut qu'ils soient conscients de cela.
Une heure plus tard, à la fin de la marche, c'est une petite montagne de déchets qui a été récoltée. Pour marquer un maximum de conscience, elle est photographiée et largement diffusée sur les réseaux sociaux.
Pierre Herbulot.
Le journal des sports.
Avec Axel May. Bonjour Axel.
Bonjour.
On en parlait au début de ce journal. L'équipe de France de rugby s'est donc rassurée en ballotage favorable après sa victoire contre l'Argentine. C'est évidemment la Coupe du Monde de rugby.
Oui.
Tokyo.
Pour leur entrée dans cette Coupe du Monde, les Bleus se sont fait peur et sans une pénalité ratée, les Argentins en toute fin de rencontre, ils auraient sans doute perdu le match. Mais l'essentiel est là, la victoire 23-21. La route vers les quarts de finale reste ouverte. Le talonneur Camicha reconnaît qu'en d'autres temps récents, les Bleus n'auraient pas gagné ce match.
Il y a quelques temps, on aurait perdu ce match et il y a quelques temps, on perdait les matchs à la fin comme ça. Et voilà, je pense qu'on est dans une bonne dynamique. J'espère que ça va continuer. Il ne faut pas, surtout pas qu'on se relâche, surtout... pour le prochain match, il ne faut pas qu'on se voit beau et voilà, j'espère qu'on va pouvoir se qualifier et gravir marche après marche. Même au stade ce soir, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de Français et on a senti l'engouement qu'il y avait et voilà, remercier les supporters français parce que c'est vrai que quand ils nous poussent derrière nous, c'est bon quoi.
Le talonneur français Camicha avec Simon Rubin. Prochain match de poule pour les Bleus après les États-Unis début octobre. Il y aura les Tonga et enfin l'Angleterre le 12 octobre.
Le gros morceau, le favori de cette poule, l'Angleterre. Actuellement, il y a un premier choc en tout cas de cette Coupe du Monde avec une affiche incroyable. Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, presque une finale avant la finale.
Les Sud-Africains ont ouvert le score 3-0 et puis les Néo-Zélandais ont passé le turbo à la mi-temps. Il y a 17-3 pour les All Blacks.
Le football, Marseille-Montpellier, c'est à 17h30.
Les Marseillais 3e du classement provisoire face à des Montpelliérains, seulement 12e, mais qui ont déjà battu Lyon et Nice depuis le début de la saison. Les autres matchs de cette 6e journée du championnat de France, la Ligue 1, ont lieu à 20h à suivre dans le multiplex Europe 1 avec Lionel Rousseau.
Et puis dimanche, ce sera Lyon face au PSG.
Oui, en ce qui concerne ces messieurs, parce qu'un choc féminin entre l'OL et le PSG et a lieu dès cet après-midi. Fabienne, les Lyonnaises, championnes de France en titre, affrontent leur dauphine parisienne pour le trophée des championnes, dont c'est la première édition. Le match se déroule à Guingamp à partir de 15h30. L'internationale lyonnaise Eugénie Le Sommer répond à Hervé Bride.
On n'est pas venu là pour faire joli, donc c'est un nouveau trophée à aller chercher et on sait que voilà, à l'OL, on débute chaque saison avec l'ambition de remporter chaque trophée. Le Paris Saint-Germain reste l'un de nos plus grands rivaux et c'est un match particulier, c'est une nouvelle compétition et voilà, j'espère que ce sera un grand match et qu'on gagnera à la fin, bien sûr.
Voilà, Eugénie, le sommaire de ce match, première édition du Trophée des Championnes à 15h30.
Merci beaucoup Axel May, il nous reste à voir le temps de ce samedi. Attention, la pluie revient dans le sud, 2 départements en vigilance orange à cause des risques orages, inondations, l'Hérault et les Pyrénées-Orientales. Valérie Darmon.
Absolument Fabienne, et les premières pluies orageuses touchent depuis ce matin les plaines littorales du Roussillon. Elles gagnent en ce moment le Languedoc et cet après-midi elles s'intensifieront sur les plaines de l'Hérault et les contreforts des Cévennes. Les rafales de vent de sud-est atteignent aussi 80 km/h sur le golfe du Lion et les contreforts justement des Cévennes. La nuit prochaine et ce soir, ces pluies s'estomperont sur le Roussillon. Elles persisteront entre le Languedoc et les Cévennes et gagneront la vallée du Rhône et toute la région PACA. Demain, après une relative accalmie le matin. Les précipitations redeviendront soutenues et orageuses dans l'après-midi sur le Languedoc et sur les Cévennes avant de remonter vers le Lyonnais et l'Isère. Et sur la région PACA, le temps restera instable toute la journée. Les températures tout de même cet après-midi sont chaudes par endroits, entre 24 à Saint-Brieuc et 30 degrés à Bourges. À Paris, il fait 29, 27 degrés dans le Lyonnais et il fait beau sur le nord et dans l'est.
Merci beaucoup Valérie Darmon. À suivre, on va revenir sur cet acte 45 des Gilets jaunes qui appelait à une mobilisation historique. On le voit pour l'instant, la mobilisation plutôt faible avec la capitale totalement quadrillée par les forces de l'ordre. Est-ce que cela veut dire que le mouvement s'essouffle définitivement? Est-ce que le débat sur la réforme des retraites peut le relancer? On posera la question au politologue Jérôme Sainte-Marie, observateur éclairé du mouvement depuis le début, puisqu'il est allé lui-même au cœur des manifestations pour interroger les Gilets jaunes. Il est mon invité.
Midi 50, vous écoutez Fabienne Lemoelle sur Europe 1. La suite du journal avec à présent le témoin de la semaine, Fabienne.
Et on le disait, pour l'instant, pas d'incident majeur dans les rues de Paris, alors que certains Gilets jaunes ont appelé à une mobilisation historique pour cet acte 45. On compte 90 personnes interpellées. Certains Gilets jaunes annoncent même pour ce soir une nuit des barricades. Tout cela avec une marche pour le climat cet après-midi, un rassemblement contre la réforme des retraites dans une capitale littéralement quadrillée par 7500 policiers et gendarmes. Avec moi en studio, le politologue Jérôme Sainte-Marie, directeur de l'Institut Pollingvox. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes, je le disais, un grand observateur de ce mouvement depuis novembre dernier. Vous êtes déjà venu plusieurs fois à ce micro pour nous éclairer sur cette mobilisation totalement inédite, car je rappelle que vous êtes allé vous-même sur le terrain au cœur des manifestations. Vous y serez encore cet après-midi. Votre première impression sur cette journée annoncée comme à haut risque, je rappelle juste que Emmanuel Macron appelait encore hier soir au calme.
Oui, il semblerait pour l'instant que ça ressemble aux mobilisations qui ont eu lieu depuis l'acte 18, depuis la mi-mars, et qui ont été assez réduites, sauf peut-être lors du 1er mai. On a aujourd'hui un écart gigantesque entre la faiblesse des mobilisations, notamment parisiennes, et un soutien qui, pour être devenu minoritaire, n'en est pourtant pas négligeable. Oui, un sondage BVA montrait 37% des Français qui souhaitaient que ce mouvement, qui est pourtant décrit comme violent, 37% des Français souhaiteraient que ce mouvement continue. De là, ils participaient eux-mêmes. Visiblement, il y a un pas gigantesque.
Même sondage qui disait que 52% des Français ne voulaient pas que le mouvement se poursuive, mais 42% qui pensent que ce mouvement peut gagner encore en intensité. Est-ce que vous voyez les ingrédients, Jérôme Sainte-Marie, pour que ça reparte?
Non, ce que l'on sait, c'est qu'il y a un mécontentement dans le pays qui demeure majoritaire, même s'il n'y a plus ce climat de détestation de l'exécutif, et notamment du président de la République, que l'on observait il y a un an. D'ailleurs, le président de la République lui-même, qui apparaissait à certains comme très arrogant dans ses prises de parole, désormais affiche une attitude d'humilité et d'écoute.
On l'a vu d'ailleurs dans l'interview qu'il a donnée au Time, où voilà, il dit que justement, il faut prendre du temps pour écouter les gens.
Alors oui, pour comprendre un peu ce qui se passe, il faut quand même rappeler ce qu'est le mouvement des Gilets jaunes. Au départ, c'est contre une taxe bien précise, et c'est un mouvement qui a une originalité radicale, c'est que ça concerne les salariés ou indépendants du secteur privé de conditions modestes. Certains sont au chômage, d'autres en congé maladie, certains en activité, mais c'est des personnes qui ne sont pas syndiquées, qui, quand elles sont politisées, sont plutôt politisées à droite, voire du côté du Rassemblement national, et qui, tout d'un coup, se sont exprimées de manière très forte, très virulente, autour d'un mot d'ordre qui était, encore une fois, le retrait de cette taxe carburant, ce qui a été atteint. Après, ça a été poursuivi par une détestation massive, presque culturelle d'ailleurs, de La République En Marche et du président de la République. Ceci s'est atténué et c'est une mobilisation qui s'est en réalité jamais mêlée, qui n'a jamais convergé avec les mobilisations classiques, celles des syndicats par exemple.
Vous parlez de mobilisation classique justement, Jérôme Sainte-Marie. Il y a cette réforme des retraites par exemple, avec ce rassemblement à l'appel de forces ouvrières contre la réforme des retraites à venir cet après-midi dans Paris. Est-ce qu'il peut y avoir une convergence des mouvements? On a vu beaucoup de Gilets jaunes qui étaient des retraités sur les ronds-points.
Oui, vous savez, la convergence des luttes, c'est une formule qui est très utilisée à gauche dans les syndicats, qui, à mon avis, n'a quasiment qu'on n'a jamais observé en réalité. Vous savez, les gens ont des intérêts assez différents. Ce qui pourrait faire converger tout cela, c'est sans doute le thème, non pas du climat, mais le thème des retraites. Parce que ça, les indépendants, ceux qui travaillent comme ça, ont aussi un problème de retraite, une préoccupation très forte. Mais là, on a vu que le gouvernement temporisait ces prochains mois. Je ne suis pas certain du tout que le mouvement des Gilets jaunes puisse recommencer par lui-même, reprendre. Que l'on ait par contre, pour les prochaines années, une menace constante d'un embrasement du pays, ça me paraît par contre tout à fait évident.
Vous parliez justement de la réforme des retraites, il y a une nouvelle grève en perspective, grève illimitée annoncée à la RATP, pas encore la CGT pour le 5 décembre.
Oui, il y a un mécontentement social, mais est-ce que tout cela peut converger? J'en doute, d'autant plus que vous avez un soutien de l'opinion qui est très fort par rapport aux mobilisations pour les urgences. Vous avez une inquiétude qui est très majoritaire par rapport à la réforme des retraites. Inversement, des mobilisations comme celle de la RATP sont désormais tout à fait minoritaires. Ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on appelait la grève par procuration lors des grandes grèves des transports publics en 1995.
Qu'est-ce qui peut cristalliser aujourd'hui au-delà de la réforme des retraites? Parce qu'on voit bien cet appel au calme lancé par Emmanuel Macron hier. Ça veut dire que quand même, l'exécutif s'inquiète d'un éventuel départ ou de nouveau voir des gens dans la rue. On l'a bien vu aujourd'hui avec la forte mobilisation des forces de l'ordre pour éviter tout incident.
Oui, l'exécutif a perdu son innocence en un an. Et j'ai été frappé par le fait que le président de la République aurait dit à ses députés qu'il fallait éviter d'apparaître comme le parti bourgeois. Parce que, de fait, une des raisons, un des carburants de ce mouvement des Gilets jaunes, c'est l'impression que les réformes sont faites par un parti bourgeois, comme le dit le président de la République lui-même, au profit de ce parti bourgeois. Et si vous voulez, depuis l'élection d'Emmanuel Macron, s'est réveillé dans le pays, comme jamais auparavant à ma connaissance, un imaginaire de lutte des classes qui donne ce caractère durable et acharné au mouvement des Gilets jaunes. Mais si ce mouvement n'a pas un mot d'ordre bien clair, et pour l'instant je ne vois pas comment il l'aurait, eh bien il ne peut pas se fixer comme but de rompre avec les institutions républicaines. Hein. Donc encore une fois, c'est des gens qui ne souhaitent pas une révolution ou un coup d'État, pour la plupart. Donc tant qu'il n'y a pas un mot d'ordre fédérateur de nouveau, je ne crois pas que ce mouvement puisse prendre une grande ampleur dans la rue.
Donc la nuit des barricades annoncée pour ce soir, ce sont des mots et un vocabulaire qui nous rappelle mai 68, mais vous n'imaginez pas effectivement quelque chose qui prospère sur ce vocabulaire.
Oui, je pense même que vous savez, tout un milieu un peu gauchisant, un peu black bloc, un peu d'étudiants radicalisés comme cela, qui a très peu de choses à voir avec les Gilets jaunes, notamment en province, et qui a fait beaucoup de tort au mouvement en plaquant son imaginaire, ses fantasmes révolutionnaires sur un mouvement qui n'en demandait pas tant.
Merci beaucoup Jérôme Sainte-Marie. On aura l'occasion de vous accueillir de nouveau parce que je crois que vous allez faire un tour dans les manifestations
Absolument.
Cet après-midi pour voir si les gilets jaunes que vous allez croiser dans Paris sont ceux que vous avez vus en décembre dernier, journée qui avait été très marquée évidemment par le saccage
de l'Arc de Triomphe. Tout à fait mémorable de fait.
Merci beaucoup Jérôme Sainte-Marie, je rappelle directeur de l'Institut Paul Invox d'avoir été avec nous ce midi. Vous le savez, on poursuit cette tranche d'information avec Tout Terrain à partir de 13h et on parlera du procès de Jean-Luc Mélenchon qui a pris des allures de tribune politique et de la tweetomania, si j'ose dire, du leader de la France insoumise. Et puis on parlera aussi des violences conjugales avec un centre incroyable où on accueille des hommes violents pour les soigner et pour les éloigner de leurs victimes.
A tout de suite Fabienne et bon week-end avec Europe 1. Il est 13h.